Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Galère que vous écoutez au 88.4 avec ou sans jingle depuis votre voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, depuis votre salon qui est peut-être chauffé au gaz ou au charbon. Nous sommes le mercredi 25 mars 2026, on est en direct jusqu'à 20h sur Radio Galère. Demain, cette émission sera rediffusée entre 9 et 10h, puis elle sera disponible sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, saison après saison et semaine après semaine, on reçoit à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Aujourd'hui, une émission hors format, un peu spéciale, où on va vous parler des enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Pour parler de cette problématique, ma foi centrale à l'heure actuelle, on accueille une nouvelle fois Marc Termine, que nous avons accueilli il y a quelques semaines, qui nous parlait du festival Écolocal. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
En régie, aux manettes ce soir, c'est Jeanne Ray.
Salut.
Merci à tous les deux d'être là avec moi ce soir. Merci à vous tous de nous écouter. Et sans plus attendre, parce qu'en fait, on a un programme très chargé ce soir. On a envie de vous parler de plein de choses. On va commencer par poser un petit peu le décor et faire un état des lieux des enjeux énergétiques internationaux. Alors Marc, tu donnes ce cours aux arts et métiers, tu connais bien le sujet de l'énergie et voilà, c'est pour ça qu'on voulait t'interroger ce soir. Est-ce que tu peux commencer par nous dresser une cartographie mondiale de l'énergie ? Donc, qui produit quoi ? Qui consomme quoi ? Dans quelle mesure ? Comment ces flux s'organisent ? Et comment sont les interdépendances continentales ?
Alors, pour commencer, il faut le savoir, on a découvert le pétrole en 1859. Et en fait, on a vraiment commencé à l'exploiter, à en faire notre énergie principale dès 1900. D'accord ? Donc, on est aujourd'hui à presque 120 ans d'exploitation de pétrole. L'exploitation du pétrole, elle a surtout évolué dans les années 80, 90, et notamment avec la mondialisation. Hein. La mondialisation a été un booster de la consommation énergétique. J'en veux à tel point qu'effectivement, lorsqu'on regarde le mix énergétique mondial en 1973, on était à 250 exajoules de consommation énergétique. Aujourd'hui, on est à 606 exajoules. C'est-à-dire qu'effectivement, la consommation énergétique la part, sachant que la part effectivement d'énergie fossile là-dedans est accrue. Donc aujourd'hui, on le voit qu'entre les années 70 et aujourd'hui, la consommation énergétique, elle a été multipliée par 2,5. Et ça, c'est vraiment le fait de la mondialisation. Hein. Alors, les pays qui consomment bien évidemment le plus d'énergie, c'est surtout les pays du Nord, et en premier lieu, donc, les États-Unis. Ensuite, par rapport au nombre d'habitants, il y a l'Australie qui est un très très gros consommateur d'énergie. Et après viennent tous les pays du continent européen, l'URSS. Puis ça, c'est un phénomène lié à la mondialisation. Puis vient ensuite la Chine. Et aujourd'hui, la Chine est un très gros consommateur. Mais historiquement, c'est pas le plus gros consommateur. Les plus gros consommateurs restent quand même l'Europe et les États-Unis. Ouais.
D'accord, la Chine consomme toujours pas autant que les États-Unis, par exemple.
C'est-à-dire, si on regarde tout ce qu'a consommé en énergie les États-Unis depuis 1900, la Chine est vraiment très très loin. Quoi. Il faudra encore quelques années avant de rattraper ce que les États-Unis ont consommé en énergie sur 120 ans. Quoi.
Ok. Et quel genre d'énergie consomment ces gros pays consommateurs ?
Alors, pour le plus gros, c'est du pétrole, bien évidemment, parce que le pétrole, il sert à faire... il a un usage pour les transports, bien évidemment. Alors, quand on parle de mondialisation, fait effectivement une accélération des échanges, la mondialisation. Donc effectivement, le pétrole joue un rôle majeur dans la mondialisation. Mais après, le pétrole sert également à produire du plastique, donc nos vêtements, transporter notre alimentation, fabriquer toute la révolution du numérique, elle est aussi liée en grande partie au pétrole. Et après, c'est effectivement le gaz, parce que le gaz, on l'exploite seulement que depuis les années 70. Avant, on ne savait pas trop quoi faire du gaz. On avait plutôt tendance à les laisser dans les puits de pétrole. Depuis les années 70, on s'en sert pour chauffer. On s'en sert également pour faire des engrais pour les agriculteurs. Il y a beaucoup d'applications. Dans l'industrie, on va s'en servir pour chauffer également, faire du ciment. Donc, effectivement, les énergies fossiles, aujourd'hui, c'est à peu près 70%. Du mix énergétique mondial, c'est ce qu'on consomme le plus. Et d'ailleurs, l'un des gros enjeux de la transition, c'est se dire aujourd'hui, si demain, effectivement, on n'avait plus de pétrole et de gaz, comment on va substituer tout ça par d'autres ressources énergétiques? C'est le problème.
Ok, donc on comprend bien. Ce qu'on consomme le plus, ce sont des énergies fossiles, quelques pays que ce soit. Et en l'occurrence, qui produit le plus ces énergies fossiles?
Alors, qui produit le plus? Le pays qui produit le plus, ça a longtemps été, puis il ne l'a plus été, puis aujourd'hui, c'est à nouveau ce pays-là qui produit le plus de pétrole, c'est les États-Unis. Et ensuite viennent tous les pays du Golfe, bien évidemment. J'allais dire, aujourd'hui, nous, Européens, on utilise beaucoup une part de pétrole, on appelle le Brent. Le Brent, c'est du pétrole qui est issu de la mer du Nord, mais qui, effectivement, je veux dire, c'est pas le plus gros producteur par rapport à ce que représentent les États-Unis ou les pays du Golfe. La Chine produit un petit peu de pétrole également. Alors, le problème, c'est que parler des pays producteurs de pétrole, par rapport au stock de pétrole, c'est qu'il y a du pétrole conventionnel et non conventionnel. C'est-à-dire qu'il y a du pétrole qui est facilement exploitable et qu'on exploite depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça que les États-Unis, par exemple, a longtemps été le plus gros producteur de pétrole, parce qu'effectivement, sur leur territoire, ils en avaient en abondance et il était facilement exploitable. D'accord ? Les pays du Golfe, c'est exactement la même problématique, alors que le pays qui finalement a le plus de stocks de pétrole en réserve, c'est le Venezuela. Et pourtant, le Venezuela, personne n'utilise, à ma connaissance, du pétrole vénézuélien, parce que justement, c'est du pétrole non conventionnel et aussi facilement exploitable, donc il n'a pas la même rentabilité. Donc en fait, les pays surtout qui aujourd'hui produisent du pétrole, c'est des pays où la rentabilité sur l'exploitation du pétrole est élevée. Ouais.
Et alors, pour un petit point géostratégique, on est en plein conflit au Moyen-Orient, comme on dit. Alors, il y a cette histoire du détroit d'Ormuz qui est dans une situation délicate. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que cet endroit est un centre névralgique? Qu'est-ce qui transite par là et en quoi ça peut poser problème s'il est plus accessible?
Alors, tout d'abord, d'ailleurs, ça a été... les Iraniens l'ont attaqué. Ils ont attaqué l'usine de gaz du Qatar. En fait, il faut savoir, il y a un enjeu sur 20% des énergies fossiles mondiales, d'accord? C'est essentiellement... beaucoup de gens parlent du pétrole, mais c'est essentiellement du pétrole et du gaz, et surtout la problématique du gaz pour les pays du Qatar. Aujourd'hui, on est en période où on va démarrer les agricultures. Le Qatar, par exemple, est un très, très gros producteur de gaz, mais surtout, le gaz, on s'en sert pour faire des engrais. Donc, effectivement, la question aujourd'hui qui va se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ces engrais, l'impact que ça va avoir sur l'agriculture, l'impact que ça va avoir, pareil, sur le prix de la pompe. Enfin, là, c'est pour le pétrole, le prix à la pompe. On voit déjà que le prix à la pompe monte. Si demain, effectivement, la crise venait à s'accentuer, il est fort probable que le prix du pétrole va encore monter. Alors, on voit aussi l'impact que ça a sur la vie au quotidien des beaucoup de Français qui prennent la voiture aussi pour leur quotidien. Donc, c'est vrai que l'enjeu... Et alors qu'on parle que de 20%, finalement, on peut dire que ça pourrait paraître pas grand-chose. On voit que 20% a un impact considérable sur notre économie et notre vie, finalement, au quotidien.
Mais alors, c'est 20% d'énergie fossile, donc de trafic mondial, qui passe par le détroit d'Ormuz. Nous, en Europe, en France, c'est pas spécialement le pétrole et le gaz qu'on achète habituellement qui transitent par ce détroit.
Oui.
pour autant, ça met une pression sur les prix. Alors ça nous amène un petit peu à cette problématique du stockage, du prix du pétrole par rapport au stock qu'on peut en avoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ?
Alors le prix du pétrole, en fait, lui fluctue, c'est toujours été comme ça, il fluctue. Alors il fluctue pas en fonction forcément du niveau de production. Hein, on peut en produire énormément et avoir un prix de pétrole qui est bas ou qui pourrait être élevé. Alors, en fait, ce qui se pose problème aujourd'hui sur la crise qu'on connaît actuellement, c'est qu'en fait, ça tend la demande sur d'autres producteurs. Aujourd'hui, par exemple, le Nigeria dit qu'ils ne sont pas en capacité de fournir, puisqu'effectivement, les pays qui peuvent se retrouver potentiellement en rupture de pétrole vont chercher du pétrole chez d'autres producteurs. Et donc, effectivement, ça va créer une tension sur d'autres producteurs de pétrole qui ne sont peut-être pas en capacité de fournir, et donc forcément les prix ils flambent c'est effectivement on voit qu'aujourd'hui on est dans un monde, il faut le savoir, hein, qui est quand même très énergivore, qui chaque année la demande d'énergie augmente, et ça c'est vraiment une constante qu'on observe depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, dans un pays où la demande énergétique augmente, effectivement, si on lève 20% de la production, y a des gens qui vont se retrouver avec des ruptures potentielles de fourniture d'énergie. Donc effectivement, ça a une conséquence sur les marchés. Et en plus, la conséquence, c'est pas simplement sur l'énergie, mais c'est sur les produits qui vont être consommés derrière. Parce que la Chine, par exemple, si demain elle venait être en rupture de pétrole, ça veut dire qu'elle produit moins. C'est quand même le moteur de l'économie mondiale. Si la Chine produit moins, ça veut dire qu'on a, nous, moins de produits finis ou moins de produits intermédiaires pour faire nos propres produits. Donc, effectivement, les conséquences, elles sont pas simplement sur le prix de la pompe, comme on a tendance à croire, mais vraiment sur tout le système économique.
Tu me parlais, quand on préparait l'émission, de la problématique des stockages de pétrole, entre autres. Donc, on a des réserves, un petit peu. On pourrait se servir de ces réserves. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Alors, aujourd'hui, on considère que les réserves de stratégiques de l'État, c'est en gros un mois et demi. Bon, le problème, c'est que cette crise, on ne sait pas si elle va durer. Alors, moi, je pense que Trump va faire marche arrière parce que je pense qu'il ne peut pas se permettre d'aller... Enfin, aujourd'hui, la crise, elle touche clairement aussi les États-Unis. Le prix du gallon aux États-Unis, je crois qu'il a pris 25% depuis le début de la guerre. Et les Américains, comme nous, subissent très fort donc ce qui se passe sur cette crise. Mais aujourd'hui, si on considère que la crise venait à durer, 30 jours, pardon, c'est pas non plus une grosse réserve. Et est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui de débloquer l'équivalent d'une semaine ? Bon, mais et tant bien même on débloque une semaine, est-ce que ça nous garantit que les prix du pétrole vont tomber d'ici une semaine ? Bon, c'est en fait l'enjeu, il me paraît pas si évident que ça. Et est-ce que c'est une bonne politique ? Honnêtement, c'est compliqué de répondre parce que à moins d'avoir une boule de cristal, on peut pas prévoir ce qui va se passer demain. Et malheureusement, moi, je suis convaincu que c'est pas forcément la solution idoine. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, effectivement, c'est une sortie de crise directe, la garantie, effectivement, que Trump arrête le conflit et surtout que le détroit d'Hormuz devienne très rapidement praticable parce que le problème, c'est qu'effectivement, si aujourd'hui la navigation est complètement bloquée, les conséquences économiques, elles seront pas immédiates, simplement immédiates, mais ça veut dire qu'on va avoir des conséquences économiques sur au moins 6, 8, 10 mois et sur certaines activités, et voire un an, deux ans sur d'autres. Hein. L'agriculture, par exemple, cette année, sans engrais, c'est très compliqué. Alors, on sait qu'en plus, les deux pays qui fournissaient le plus d'engrais, c'était l'Ukraine. Donc l'Ukraine est en guerre et le Qatar. Donc les engrais, là, cette année, si ça se passe mal, ça pourrait aller à 30-40% d'augmentation sur le prix des engrais. Ça veut dire que ça va se répercuter sur l'alimentation. Il y a des économistes qui disent aujourd'hui que l'inflation, elle pourrait prendre entre 5 et 8%. 5-8% pour les ménages, c'est énorme, en fait. Voilà.
Ouais, on comprend bien donc cette pression qu'on a tous, autant au niveau individuel qu'au niveau de nos États, sur les énergies fossiles. Et ça nous amène bien sûr à ce défi dont on parle de plus en plus, qui est celui de la transition énergétique. Alors, quand on parle de transition énergétique, on imagine que voilà, il faille sortir des énergies fossiles le plus vite possible, mais qu'est-ce que ça sous-entend ? Vers quoi on va dans une transition énergétique ?
Alors, bien évidemment, la solution, ce serait l'électrification, puisque la seule énergie aujourd'hui qui est majoritairement décarbonée, c'est l'électricité. Donc, ça veut dire les ENR et le nucléaire. Mais l'électrification, effectivement, ça nécessite de se préparer. On ne va pas vers l'électrification de manière d'un claquement de doigts. Il faut vraiment le préparer. Et puis, est-ce que tant bien même on fait une bonne transition, ça garantit avoir aujourd'hui les niveaux d'énergie disponible par rapport à ce qu'on consomme d'énergie fossile ? Moi, je ne suis pas convaincu. Donc, effectivement, on a en tout cas, ce qui ressort, et on le voit très bien avec ce conflit, c'est qu'on a vraiment intérêt de s'émanciper des énergies fossiles le plus rapidement possible, parce que ce genre de conflit, si on va vers un monde décroissant sur l'énergie, et notamment les énergies fossiles, il peut se reproduire dans l'avenir sur d'autres territoires. Et ça, ça voudrait dire qu'on reste de toute façon ultra sensible par rapport à ce genre d'événement. Et puis de toute façon, le meilleur moyen, effectivement, de se protéger de ça, et sans parler effectivement d'écologie, parce qu'il y a le problème en plus du changement climatique, mais sans parler même de ce problème-là, le meilleur moyen de se protéger, puisque l'Europe, elle, en tout cas, le seul distributeur de pétrole en Europe, c'est la mer du Nord. Et on sait que les réserves de pétrole dans la mer du Nord, c'est à peu près 10-15 ans, et après, derrière, on sera totalement ouvert à de l'importation, de l'importation de pays qui ne seront pas européens. Donc vraiment tributaires du contexte géopolitique futur. Et là-dessus, quand on voit les pays producteurs, on n'a aucune garantie de stabilité. Donc on a tout intérêt de faire une transition. Ouais.
Donc, en gros, on a une dizaine d'années pour confortablement faire cette transition et pouvoir être indépendant des énergies fossiles au niveau européen. Si jamais, dans 10 ans, on arrive à se passer des énergies fossiles qui sont produites à l'extérieur, on maintient une certaine autonomie, une certaine indépendance énergétique.
Alors... faire une transition sur 10 ans, c'est juste impossible. Donc effectivement, ça montre qu'on va être confronté effectivement à des problématiques qui sont des problématiques effectivement de réalisation, hein, le temps de mettre en place cette transition. Donc on va avoir une phase où en fait on sera de toute façon très dépendant de la géopolitique, du prix du pétrole, et puisqu'aujourd'hui la neutralité carbone telle qu'on nous l'explique, c'est 2050, c'est pas 2035. Donc entre 2035 quand même et 2050, on va se retrouver sur des phases effectivement où faudra prier pour qu'il n'y ait pas de conflit à travers la planète et qu'on soit dans une situation favorable pour pouvoir continuer notre transition dans les meilleures, dans des conditions optimum.
Et alors, on en est où aujourd'hui de cette transition ? Où est-ce qu'on en est et à quel horizon on peut imaginer avoir une certaine indépendance ?
Alors là, c'est la vraie question. Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression d'être nulle part. C'est ça le vrai souci. C'est-à-dire qu'on sait que la transition, il y a des projets. Il y a eu un projet PPE3 donc qui engage l'État à des obligations sur l'électrification à échéance. Mais aujourd'hui, quand on voit Proglio, qui était l'ancien patron d'EDF, faire du lobbying anti-ENR, parce qu'il considère qu'aujourd'hui, et c'est la réalité, les Français consomment moins d'électricité qu'il y a 10 ans. Donc, en fait, la transition énergétique voudrait qu'on consomme davantage, en fait, d'électricité qu'il y a 10 ans. Et en fait, on est sur une situation où les économies d'énergie, alors, c'est marginal, mais le fait d'avoir mis des LED, les économies, en tout cas, qu'on arrive à faire aujourd'hui sur l'énergie.
C'est sur l'électrique.
Sur l'électrique, en fait, on fait baisser la consommation électrique, alors qu'au contraire, on devrait tout faire aujourd'hui pour davantage consommer de l'électricité.
Okay,
voilà, et là, on est sur une vraie problématique pour les producteurs d'énergie électrique.
Alors, quel est le mix énergétique français aujourd'hui et vers quoi est-ce qu'on devrait tendre à horizon, 2035, on a compris, c'est mort, mais 2050, disons.
Alors, le mix énergétique français aujourd'hui, nous, la France, on a quand même de la chance parce qu'on a quand même des centrales nucléaires, on en a 54. Donc, notre mix énergétique, il est à 35% déjà décarboné, d'accord ? Ça veut dire quand même qu'on en a 65% qui reste encore de l'énergie fossile. Sur la part d'énergie décarbonée, en gros, on va dire, c'est... un peu plus de 2/3 de l'énergie nucléaire et le reste de l'ENR. Bon. Alors l'avantage de l'ENR, c'est qu'on avance très vite, on peut très vite augmenter les capacités de production, mais pour augmenter les capacités de production de l'ENR, il faudrait que les Français, quand même, du coup, consomment beaucoup plus d'électricité. Alors, juste, je vais faire un petit aparté. Pourquoi il faudrait ? Parce qu'en fait, la production d'électricité, elle repose sur une règle qui est fondamentale, et qui est la suivante, en fait, on ne peut pas stocker d'électricité, ou très peu.
Mais on va y revenir à ça, voilà. Je vais te demander de nous expliquer ça en détail.
Voilà.
D'accord, donc aujourd'hui, on a 25% de décarboné électrique et 65% pardon, d'énergie fossile. L'idéal, c'est que d'ici à 2050, on soit en 100%...
quasiment 95% déjà, ça serait...
Ce serait super.
Ça serait super, ouais.
Super. Et donc, là, tu nous as parlé de deux moyens d'y arriver, donc bien sûr le nucléaire et ENR, donc les énergies renouvelables. Moi, j'ai l'impression que depuis les dernières 20-30 ans que je suis sur cette planète, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un certain tabou autour du nucléaire. On n'ose pas trop. Il y a des politiques qui vont en avant, puis qui vont en arrière. Est-ce que c'est Tchernobyl qui nous a traumatisés ? Est-ce qu'il y a une omerta par rapport à ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas trop parlé pendant les 20 dernières années et qu'aujourd'hui, ça semble être la bonne solution ?
Alors, le nucléaire, il a quand même de gros avantages. Hein. Il a l'avantage d'avoir une production qui reste relativement constante, très stable. Donc, ce qu'on appelle de l'énergie pilotable, ça, c'est la règle de base du nucléaire. Alors, s'il a eu mauvaise presse, en fait, il faut le savoir, la mauvaise presse du nucléaire démarre avec la guerre du Vietnam, en fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis, je crois que c'est le film d'Oliver Stone qui en parle très bien. C'est-à-dire qu'en fait, le lobbying pétrolier qui a eu de très gros intérêts, hein, sur la guerre du Vietnam, pour eux c'était une opportunité économique très forte. Lorsque la guerre s'est arrêtée, en fait, ils se sont retrouvés avec potentiellement un ennemi en face et ils ont fait de la pub anti-nucléaire qui alors a eu un effet de caisse de résonance chez les écologistes. Donc ils se sont retrouvés avec un allié, opportun. Et donc là, effectivement, le nucléaire a eu très mauvaise presse pendant longtemps et en plus. Avec deux courants forts qui militaient contre, c'est-à-dire les écolos, et en sous-main, le lobbying pétrolier. La tendance s'est inversée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la priorité, c'est décarboner. Et d'ailleurs, ça a mis très longtemps, mais aujourd'hui, le nucléaire est considéré comme une énergie décarbonée. D'accord ? Donc, le basculement, effectivement, d'ailleurs, et pour finir avec ça, la responsable de la Commission européenne, Mme von der Leyen, a récemment dit que pour l'Allemagne, ça a été une erreur de sortir du nucléaire parce qu'effectivement, c'est de l'énergie décarbonée, facile, pas très chère. Donc, effectivement, il y a eu ce retournement parce que la réalité du changement climatique et de la décarbonation et de la transition énergétique de l'Europe a démontré que le nucléaire fait partie des solutions.
Tu nous expliquais, quand on préparait l'émission, ces nouvelles générations de réacteurs. Oui. Donc moi, il y avait un argument que j'imaginais aussi contre le nucléaire. C'était ces déchets dont on ne savait pas forcément quoi faire, qu'il fallait stocker sous terre, mettre des panneaux pour les gens qui pourraient tomber dessus dans 2000 ans. Mais tu disais qu'on avait trouvé des solutions à ce niveau-là.
Alors, en fait, il y a des solutions. Et c'est malheureux à dire, mais la France avait un leadership là-dessus. C'est-à-dire que... Les centrales nucléaires, en fait, il existe quatre générations de centrales nucléaires. Les trois premières, en fait, utilisent de l'uranium comme carburant. Et la quatrième génération, elle, utilise les déchets des centrales nucléaires comme carburant. Ce qui veut dire aussi, précisément, que dans le cas de trois premières centrales nucléaires, il reste 100 ans à peu près d'uranium en stock et donc de carburant potentiel, alors que si on passe sur les quatrièmes générations, c'est-à-dire la génération où la centrale nucléaire exploite le déchet des centrales nucléaires comme source de carburant, à ce moment-là, on passe sur une échelle de 1000 ans. Et en fait, on boucle le cycle du nucléaire. Alors ça, c'est très bien illustré. Si pour ceux qui veulent écouter Yves Bréchet en commission à l'Assemblée nationale sur la souveraineté énergétique. Alors moi, je partage pas forcément tout ce que dit Yves Bréchet, mais en tout cas là-dessus, c'est très très bien. Après, il dit aussi des choses très très intéressantes. Et sur ce sujet, je pense qu'effectivement, alors je donne totalement raison. Ça, c'était une erreur. Et ce qui est d'autant plus une erreur que aujourd'hui, le premier pays à avoir sorti une centrale de quatrième génération, c'est la Chine. Donc, on voit bien d'ailleurs sur la problématique de la transition, c'est que la Chine aujourd'hui a pris de l'avance sur le nucléaire, a quasiment mis main basse sur le photovoltaïque. Et en fait, aujourd'hui, l'Europe se pose des questions sur les éoliennes, la rentabilité des éoliennes. Bon, alors qu'en fait, là, partout où on avait potentiellement un leadership, aujourd'hui, on est plutôt suiveur, quoi.
En tout cas, même sans leadership, l'autre alternative pour une énergie décarbonée, c'est les énergies renouvelables. Quels sont les avantages et les limites ?
Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, le nucléaire, il a un avantage, c'est qu'il est pilotable. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a besoin d'électricité, on rajoute du carburant. Si on n'en a pas besoin, on peut le limiter. Donc, effectivement, ça, c'est assez facile, si on veut, à gérer le niveau de production d'électricité par le nucléaire. Par contre, les ENR... c'est que c'est pas pilotable, donc c'est effectivement intermittent. Ça veut dire que ça dépend de le photovoltaïque, ça marche que la journée déjà de base. Voilà, ce qu'on constate, c'est que les éoliens, c'est plutôt une énergie d'hiver. Le photovoltaïque, c'est plutôt une énergie d'été, même si chez nous, en région PACA, c'est presque toute l'année, finalement. Mais donc, et par contre, la grande facilité avec le nerf, c'est qu'on peut très vite déployer de la capacité de production. Donc, on a d'un côté quelque chose qui est très long à développer, parce qu'il faut sortir une centrale nucléaire, ça ne sort pas de terre du jour au lendemain. Par contre, c'est très stable. L'autre côté, on a quelque chose de très instable, mais par contre, on peut en produire très rapidement du jour au lendemain. Donc, c'est toute la difficulté, ce que je disais, du réseau électrique, parce qu'un réseau électrique, lui, il a besoin d'être très stable, parce que effectivement, s'il y a une instabilité entre l'offre et la demande, c'est une coupure d'électricité. C'est ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal. On a un blackout, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'électricité. Donc, c'est toute la difficulté de la transition, c'est-à-dire que si on est en sous-production, en sous-demande, ce qui est le cas aujourd'hui de la France, on est obligé d'exporter de l'électricité d'ailleurs à l'étranger parce qu'on est en sous-demande. Si on est en sous-demande, il n'y a pas d'intérêt à créer de la production, de nouveaux outils de production, alors qu'on a tout intérêt, en fait, par rapport à la décarbonation, à accélérer aujourd'hui notre électrification. Donc c'est compliqué pour EDF de dire on développe davantage d'outils de production, alors que le niveau de... Donc c'est toute une problématique de politique, vraiment, aujourd'hui, de politique à la transition, qui est à revoir et à inciter vraiment les Français et tous les Français à aller vers l'électrification, ce qui donnerait en plus des moyens, effectivement, à RTE de développer massivement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que, quand je dis on voit pas grand-chose au niveau de la stratégie de la transition énergétique, c'est que je ne vois pas l'incitation des Français massivement à aller vers l'électricité.
Eh bien, on va prendre une petite pause musicale et à la reprise, on parlera justement des nouveaux systèmes et des électrifications potentielles et souhaitées des usages. Je vous propose, pour clore ce chapitre sur les énergies fossiles, d'écouter Gasolina, un titre du siècle dernier, c'est pas vrai, il a dû sortir après l'année 2000, mais pour autant, il s'agit d'un monde révolu. On se retrouve après la pause musicale. À tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Galère. Ce soir, on parle d'énergie, d'enjeux énergétiques. Alors, on a parlé un petit peu de la situation internationale, du bousier dans lequel on se retrouve grâce à la mondialisation des échanges, notamment en énergie. Et dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur les enjeux nationaux et régionaux. Et Marc, je voudrais que tu nous parles un petit peu du PPE3, le petit nom du programme pluriannuel de l'énergie présenté par le gouvernement en février, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce que c'est le PPE et voilà, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que ça raconte ?
Alors, le PPE3, c'est un plan de préparation justement à l'électrification, hein, donc c'est un plan pluriannuel de l'électricité. Donc le PPE3, il a vocation à donner une direction sur justement quel niveau de production on aura à échelle 2035 puis à 2050, d'accord ? Donc ce qu'il en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui la France va s'engager sur 6 centrales nucléaires, 14. Elle se désengage, elle va réduire certains financements à contrario sur les ENR, mais en fait c'est un arbitrage où quand même plus ou moins tout le monde va y trouver son compte, même si les ENR, ça sera un peu moins intéressant qu'il y a quelques temps.
Quand tu dis ENR, là, tu inclus le nucléaire dedans?
Non,
ou pas?
Okay. J'inclus pas le nucléaire, c'est le photovoltaïque et l'éolien. On va un petit peu moins encourager les gens à d'un point de vue financier, parce qu'aujourd'hui, les accords sur le photovoltaïque, par exemple, c'est pour les gens qui ont des très vieux contrats, ils ont un retour sur investissement, puisque l'État rachète la surproduction, et donc ils ont des contrats très avantageux. Ça sera moins avantageux. Mais aujourd'hui, voilà, il laisse quand même une ouverture pour les deux choses. D'ailleurs, c'est très, très contesté. Aujourd'hui, la PPE 3, il y a beaucoup de gens qui... Alors, je veux dire, le Front National, par exemple, est très clairement pro-nucléaire et voudrait laisser tomber totalement les ENR. Pour moi, ça n'a pas de sens, puisque, comme je te disais, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment d'accélérer au maximum notre indépendance aux énergies fossiles. Puisque, nous, déjà, pour l'Europe, on parle de moins 30% potentiel d'énergie fossile en 2030, enfin, dans la décennie 2030.
Quand notre réserve de la mer du Nord sera épuisée.
Quand notre réserve de mer du Nord sera épuisée, on devrait avoir 30%. Donc, ça fait quand même un gros gap. Et on a vraiment intérêt, aujourd'hui, à accélérer. Et le meilleur outil, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même le photovoltaïque et l'éolien.
Donc ce PPE, il parle des comportements individuels, il parle de comment sponsoriser.
C'est un plan qui est donné, une feuille de route qui est donnée à RTE, qui est le producteur d'énergie. Et en gros, puisque je me suis amusé à prendre les chiffres, je les ai sous les yeux. Aujourd'hui, en fait, on est dans notre mix énergétique, donc c'est 60% d'énergie fossile. Donc en 2035, ce qu'il prévoit, c'est déjà une réduction des énergies fossiles qui devrait être de l'ordre à 30-35% sur le mix énergétique. Ça veut dire une baisse déjà de 30%. Donc effectivement, on est dans la logique où on est conscient qu'il va y avoir une baisse de l'approvisionnement potentiel des énergies fossiles. Mais effectivement, on voit que la ligne de route, elle, n'est pas en phase. Pour ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement comment se construit notre mix énergétique. D'accord ? Donc j'en parle un tout petit peu. Notre mix énergétique en France, la France, elle consomme 1500 tétrawattheures, c'est-à-dire si on ramène tout ce qu'on consomme de la voiture, de la télé, tout ce qui est électrique et tout ce qui est énergie fossile, ramené à une valeur, j'allais dire, énergétique électrique, c'est 1500 tétrawattheures. Ça, c'est tout ce qu'on consomme en France. Après, il y a de l'énergie quand même qui vient de l'étranger, tout ce qu'on consomme qui vient de l'étranger. Tout ça, ça ramène notre mix énergétique à 2400-2500 tétrawattheures. D'accord ? Aujourd'hui, la part des ENR dans ce mix à 2400-2500 tétrawattheures, c'est 380 tétrawattheures. Donc, autant dire, c'est de l'ordre de 15%. Et même quand on dit qu'aujourd'hui, le nucléaire, ça représente à peu près 25%, enfin, les ENR représentent 35%, si on rajoute notre consommation énergétique étrangère, en fait, on est à un niveau de mix énergétique qui est beaucoup moindre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, la part de transition énergétique telle qu'elle est définie par la PPE va laisser une part d'inconnu sur la sobriété qui est considérable en réalité. Et là, il y a un vrai enjeu. Ça veut dire que déjà, dès 2030, la France pourrait être amenée à faire des arbitrages énergétiques.
C'est ça. Donc ce PPE, il prévoit qu'on va pouvoir remplacer totalement les énergies carbonées par des ENR, du nucléaire, sans parler de changement des usages, des us et coutumes, comme si on changeait rien, qu'on change rien notre mode de vie.
En gros, c'est ça, ouais. Exactement.
Et qu'est-ce que t'en penses, toi, en termes de cohérence
Moi, j'en pense que, en termes de cohérence, on tiendra pas la feuille de route. Ça veut dire qu'effectivement, on va arriver à des situations d'arbitrage. Moi, je suis convaincu de ça. Aujourd'hui, lorsqu'on voit, par exemple, on nous parle aujourd'hui de ce que je disais la dernière fois que je suis venu, on parlait d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la consommation énergétique mondiale, par exemple, sur tout ce qui est numérique, digital, fabrication de produits informatiques, c'est l'équivalent du quatrième pays consommateur d'énergie mondiale.
Ok. D'accord. La technologie, c'est le quatrième.
Ça représente en gros, je ne veux pas dire des bêtises, il faudrait fact-checker, mais je crois que ça représente en gros 5% de la consommation énergétique mondiale. Et aujourd'hui, en France, on nous parle, et même à Marseille, de passerelles potentielles de data centers, parce qu'effectivement, on est positionnée par rapport à notamment l'Afrique et toute cette situation géographique-là. La France, enfin, Marseille est super bien positionnée pour du data center, mais en fait, est-ce que le data center est en cohérence avec la transition énergétique ? Moi, honnêtement, j'y crois pas.
Ok, donc des objectifs du PPE qui paraissent pas forcément réalistes.
C'est-à-dire, en fait, c'est une affaire de cohérence, c'est-à-dire de cohérence de politique par rapport à la réalité, j'allais dire physique, mm-hmm. de ce qu'on peut avoir en énergie. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas une vraie cohérence. Enfin, pour moi, hein, il y a pas une vraie cohérence. Et même sur, je t'en parlais avant l'émission sur l'aménagement des territoires, parce que. Ce qui est évident, c'est que si demain, en plus, on se retrouve avec des situations où on est, j'allais dire, énergie-less, avec moins d'énergie, ça veut dire que l'aménagement des territoires se fera avec aussi moins d'énergie. Ça veut dire que, bon, donc en fait, c'est tout notre système, de notre organisation de vie. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on a intérêt d'accentuer la mobilité ? Voilà, la mobilité collective, ben oui, parce que si demain le coût du pétrole, ben on le voit aujourd'hui avec cette crise-là, si le coût du pétrole venait à augmenter ou le pétrole venait à se raréfier, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont se retrouver dans un état de ruralité qui sera du jour au lendemain qui sera équivalent à l'inverse que de ce qu'on a connu dans les années 50. C'est-à-dire que des gens qui se retrouvent aujourd'hui en voiture vont se retrouver clairement pas à pied, mais presque.
En calèche, quoi. Ouais.
Ouais, c'est... Donc ça va créer, je pense, beaucoup de surprises dans un premier temps et je pense qu'effectivement, on a tout intérêt à aller vers l'électrification rapide et une transition très rapide parce qu'effectivement, aujourd'hui, nos territoires ne sont pas du tout adaptés, quoi.
Alors pour rester vraiment dans le pratique, dans la matière, je me suis rendu compte en préparant cette émission que je ne savais rien des systèmes électriques nationaux. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu comment ils fonctionnent en termes de production, de transport, de distribution, de consommation ? Et pourquoi est-ce qu'il faut cet équilibre en temps réel production-consommation ? Tu parlais du blackout ouais. espagnol.
Voilà, donc effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, pour qu'un système électrique fonctionne, il faut qu'il soit stable. C'est-à-dire qu'il faut que la demande d'électricité, elle soit en phase avec la production et vice-versa. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire « je produis moins que ce qu'on me demande », parce que si tu produis moins, ben, y a des gens qui vont se retrouver sans électricité.
Ok, donc dans le pire des cas, si tu produis moins, il y a des endroits qui vont pas être alimentés.
Tu vas être obligé ou de faire des arbitrages et de dire à des gens « je leur coupe l'électricité », parce que si par contre tu dis « je maintiens le système global », là, c'est une chute du système et c'est une coupure. Donc, soit si tu produis moins, tu vas être obligé de mettre des gens en situation de rupture énergétique, ou alors tu coupes tout le système. Mm-hmm. A contrario, si tu produis beaucoup plus que ce qu'on consomme, bah, pareil, c'est ce qui se passe si tu t'amuses à mettre une machine qui surconsomme de l'énergie chez toi, bah, qu'est-ce qui se passe ? Ton compteur, il coupe. D'accord ? Et là, le niveau de variabilité entre la production et la consommation, c'est de l'ordre de 0,05%. C'est-à-dire, à l'échelle nationale, c'est pas grand-chose. Ça veut dire que les opérateurs, ils n'ont pas beaucoup de temps pour arbitrer quand est-ce comment on distribue, quand est-ce qu'il faut arbitrer. Et c'est vrai que ça a pour conséquence, si on ne maîtrise pas ça, d'avoir des blackouts, comme ils ont connu, je te disais, en Espagne ou au Portugal. Et au Portugal, vraiment, ça veut dire là, tu as tout le pays qui est en coupure. D'accord ? Et tout le problème de l'électricité, c'est qu'on ne sait pas stocker de l'énergie, ou très peu. C'est-à-dire que, par exemple, sur du photovoltaïque, quand tu mets un équipement en photovoltaïque, là, on peut mettre des batteries. Ça, à l'échelle, j'allais dire, très, très locale, c'est-à-dire sur des maisons, des trucs, bon, on arrive, mais à l'échelle nationale, c'est quasiment impossible. Le seul pays, aujourd'hui, qui a très fortement investi sur de la batterie, c'est l'Arabie Saoudite. D'accord ? Donc on voit bien que quand même les pays producteurs de pétrole commencent à se préoccuper de la question énergétique. L'Arabie Saoudite a la plus grosse réserve de stockage d'énergie. Après, sinon, comment on fait si on surproduit ? On fait par exemple, en France, on va faire tourner un barrage électrique. Ça consomme beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Tu fermes le barrage, ça consomme beaucoup d'énergie. Ça va stocker de l'eau, donc ça va produire de l'énergie. Mm-hmm. Donc c'est une façon de déstocker et de restocker de l'énergie c'est quasiment les seules, okay, les seules solutions.
Ça te donne une petite zone tampon,
voilà.
Quoi.
Donc, voilà,
de...
Exactement. Donc, c'est le seul tampon plus ou moins qu'on a à l'échelle nationale. Après, effectivement, d'où cette problématique-là entre la transition, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter très rapidement notre capacité de produire de l'électricité, en phase avec les Français qui demandent de plus en plus d'électrique. Parce que si effectivement on investit, ça, plus ça coûte de l'argent. Parce que enfin, c'est la réalité aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des systèmes qui coûtent beaucoup d'argent aux Français. Aujourd'hui, on vend de l'électricité à perte.
Voilà, c'est ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'on produit plus d'électricité qu'on en consomme aujourd'hui, alors qu'on est dans une tendance à l'électrification, voilà, des usages. Enfin, c'est là qu'on devrait aller.
Donc, les gens se plaignent que le prix de l'électricité est élevé par rapport à la rentabilité qu'on devrait avoir des centrales nucléaires. Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans cette obligation de s'équiper très rapidement. Mais comme les gens en face, ne consomment pas aussi rapidement qu'on pourrait équiper, ben en fait, on est dans une situation où tout le monde est perdant-perdant, en réalité. Voilà.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour électrifier nos usages ? Comment, par quoi ça passe ? Donc, exemple, celui de la voiture.
Bah, la voiture, la pompe à chaleur, en fait, il y a des solutions, il y en a des milliers. Aujourd'hui, il faut le savoir, par exemple, à Berre, on est sur une grande phase de décarbonation de l'industrie de Berre. L'industrie de Berre, c'est 30% de la consommation énergétique française. Si on arrive à décarboner la zone de Berre, c'est potentiellement des économies de 40-50% d'énergie. Donc là, il y a d'une part une surconsommation, mais est-ce que si on décarbone Berre, est-ce que RTE sera en capacité de fournir toute l'énergie dont a besoin Berre ? Je ne sais pas si tu as entendu parler aujourd'hui du débat des lignes haute tension du côté d'Arles, où il y a vraiment des écologistes qui s'opposent à cette électrification pour aller parce que ça pose des problèmes, notamment à beaucoup d'oiseaux qui sont sur ce secteur, tout ça. A contrario, du coup, ça, est-ce que si on ne fournit pas la capacité à Berre d'être électrifié, parce que là, on parle quand même de 30% aussi. Donc, c'est tout un débat, effectivement, à la fois sur l'aménagement du territoire, les enjeux, j'allais dire, qui sont à la fois économiques et sociaux, parce que derrière, mine de rien, Berre, c'est aussi des gens qui travaillent. Donc effectivement, ça, c'est toute une réflexion qui mérite d'être mise sur la table. Et aujourd'hui, là aussi, on ne voit pas non plus forcément souvent dans les débats politiques. Hein.
Et alors, qu'est-ce qu'on devrait changer, mais vraiment au niveau des infrastructures nationales et régionales ? Du coup, tu parlais de Berre, mais comment est-ce qu'on passe de cette utilisation de l'énergie fossile à nos industries, par exemple ? Comment elles font pour se décarboner et pour s'électrifier le plus possible ?
Alors, il y a plusieurs solutions, mais pour les particuliers, la vraie seule solution, c'est l'électrification, d'accord ? Alors, la sobriété, et malheureusement, je pense qu'on va plutôt aller vers la sobriété plus que l'électrification. Aujourd'hui, pour beaucoup de Français, la voiture électrique, c'est cher, il faut être honnête. On parlait tout à l'heure des pompes de chaleur, mais les pompes de chaleur, pareil, ça a un coût quand même élevé. Je veux dire, un particulier, une pompe à chaleur, c'est au minimum de l'ordre de 3 à 4 000 euros. Et après, ça peut aller, selon les équipements, à 20 000 euros, 25 000 euros. C'est quand même des investissements qui sont assez lourds, mais qui sont vraiment nécessaires et qui, en plus, pour des gens qui vivent en région PACA, ont une vraie rentabilité rapide. Parce que aujourd'hui, c'est facile de dire c'est 25 000 euros, mais si tu réduis ta facture électrique de 70%, c'est ce qui est à peu près le cas en région PACA, hein, puisque la rentabilité de ces outils-là en région PACA est supérieure au nord de la France de presque 30%. Donc on est sur des réductions de facture d'électricité à 70%, mais 70% du prix d'aujourd'hui.
Eh oui.
Parce que 70% du prix de demain, on ne sait pas ce que ça pourrait être. Et si ces prix-là augmentent, la rentabilité, elle va être vraiment intéressante. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout ça est mis sous un point d'interrogation. Alors, c'est évident que les trajectoires que je te décris vont démontrer que ça va être intéressant. Mais aujourd'hui, l'arbitrage, il doit se faire aujourd'hui avec les moyens économiques d'aujourd'hui. Et l'État n'incite pas assez.
Voilà, comme tu le dis, il n'y a pas forcément de politique qui propose qui de mettre une pompe à chaleur, qui de mettre des éoliennes, qui de mettre des panneaux solaires sur les...
Après, il y a d'autres solutions. Il y a l'hydrogène, mais l'hydrogène va être une solution plutôt pour les grosses industries. Ça ne sera pas une solution pour les particuliers. clairement. Enfin, moi, en tout cas, j'y crois pas. Et après, il y a les énergies, enfin, tous les biocarburants, les trucs comme ça. Moi, les biocarburants, pareil, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on va faire un arbitrage dans un monde où on va avoir de moins en moins d'eau, des contraintes. On va aller vers un arbitrage où le biocarburant va remplacer notre carburant pour les voitures. Juste, je te disais tout à l'heure, je me suis amusé à faire un petit calcul. Aujourd'hui, on a 40 millions de voitures qui circulent en France pour à peu près 1,3 million de voitures électriques. D'accord ? Et au rythme où on vend aujourd'hui des voitures électriques, il faudrait 1120 ans, je crois, de transition pour arriver à migrer toutes les voitures françaises vers de l'électrique. Et si on est sur un schéma où dans 15 ans, on est à 30% d'énergie fossile en moins, ben, y a beaucoup de Français qui n'auront plus de voiture, qui n'auront ni de voiture électrique, ni de voiture tout court.
Et je voudrais qu'on termine cette émission en parlant vraiment d'un focus très local. Donc, tu l'as évoqué, la zone Fosse-Berre, qui est donc au bord de la mer, là, qui a moult industries. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe dans cette zone et nous rappeler, tu l'as déjà dit, le poids de la consommation énergétique
La région PACA, en fait, il faut savoir, nous, si tu regardes les cartes, il n'y a pas de centrale nucléaire en région PACA. D'accord ? Les premières centrales nucléaires sont dans le Tricastin, dans le canal du Rhône, donc dans la Drôme, d'accord ? C'est à la frontière du Vaucluse. Mais notre région n'a pas de centrale nucléaire. Donc elle est massivement, aujourd'hui, importatrice déjà d'énergie, sur toute l'énergie qui est produite en France. Alors, on a beaucoup de raffineries, d'accord. Donc, mais si on est dans un monde d'électrification, en fait, on serait importateur net, très massif, d'accord. Et effectivement, on est dans la région d'Aix-Berre à un niveau de consommation, c'est peut-être avec Lyon et Paris, on est dans, et un peu le nord, on est vraiment, en tout cas, on est dans la deuxième zone de consommation énergétique de toute la France. Donc, on est sur un enjeu très fort. Donc, effectivement, aujourd'hui, la problématique, c'est que déjà, on est sur des industries qui sont orientées beaucoup vers l'énergie. Donc, il va falloir transformer ces entreprises-là vers d'autres activités. Et notamment, peut-être le port, revenir à des activités plus, plus portuaires, moins orientées vers justement la transformation. Voilà. Bah après, on aura toujours. D'ailleurs, moi, je suis convaincu qu'on va aller de moins en moins de raffineries en France.
Bah, il faut du coup des projets de transition. Voilà,
et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Il y a déjà moins de raffineries qu'à une certaine époque. C'est un schéma qui va continuer. Mais ça veut dire qu'il va falloir transformer notre industrie. Il va falloir quand même garder des industries qui soient orientés vers justement la production de produits manufacturiers. Mm-hmm. Par exemple, pour moi, alors là, c'est pas le cas en région PACA, mais l'arrêt de Brandt, c'est-à-dire une société qui sait faire de l'électroménager électrique en France, c'est une catastrophe dans le cadre de la transition énergétique. Je veux dire, c'est une des rares grandes entreprises françaises qui était en capacité de manière souveraine de nous produire équipements électriques. Donc, effectivement, là aussi, on voit qu'il y a toute une logique qui, à la fois sur des territoires de manière individualisée, mais aussi qui nécessiterait un pilotage bien plus organisé au niveau national. Et effectivement, justement, pour revenir du coup à notre région, si on veut transformer effectivement ce secteur de Berre qui est un enjeu majeur sur notre territoire vers une économie qui soit, une industrie qui soit vraiment intéressante, il faut vraiment décarboner et en même temps faire une transition qui soit en bonne et due forme et sans tenir compte en plus que la région PACA, elle vit beaucoup aussi du tourisme. Si demain, on a moins de véhicules, donc ça veut dire que c'est une part de revenus qui va venir en moins. Ça veut dire qu'on va effectivement avoir besoin. Alors, comme je disais, le risque, effectivement, c'est d'avoir aussi une importation qui soit moins importante. moins d'énergie, c'est moins d'importation. Ça veut dire qu'il va falloir faire revenir sur notre territoire des structures qui sont en capacité de subvenir à nos besoins. Donc refaire revenir peut-être le textile, refaire venir justement ce qu'on a arrêté aujourd'hui avec Brandt. Donc c'est effectivement toute une réflexion sur l'industrie qui doit être menée, et pas simplement menée au niveau national, mais vraiment au niveau aussi des territoires, parce que dans les territoires, il va y avoir beaucoup de modifications, ça c'est clair.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. Pour conclure et pour ouvrir en même temps, quels sont pour toi, Marc, les leviers prioritaires pour réussir notre transition énergétique en France? Alors, je sais que réussir, pour toi, c'est un terme un peu...
Alors oui, réussir, moi j'avoue, la transition, j'y crois pas trop, mais bon. En tout cas, réussir, pour moi, il y a trois leviers. Bon, le premier, c'est climatique, ça c'est obligatoire, c'est décarboner, voilà. Si on veut donner aux générations futures un monde qui soit acceptable, c'est décarboné. Donc effectivement, ce levier-là, il doit être... Parce qu'effectivement, l'énergie, on sait que l'énergie est très liée au changement climatique. Hein, donc on est dans une émission effectivement environnementale où on parle normalement de ces sujets-là. Aujourd'hui, on est sur l'énergie, mais l'énergie, c'est la base d'un des problèmes majeurs de l'environnement, qui est justement le changement climatique. Donc décarboner, c'est la priorité. La deuxième priorité, c'est effectivement l'électrification. Et la troisième priorité, c'est l'aménagement des territoires. Et en fait, ce qu'il y a d'assez paradoxal et à la fois d'assez logique, c'est que ces trois sujets, en fait, sont tous corrélés. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, si on aménage bien notre territoire, on augmente la résilience de notre territoire au changement climatique. Ça veut dire que si on augmente la résilience de notre territoire au changement climatique, ça veut dire qu'on a besoin d'énergie. D'accord. Et donc, effectivement, si on arrive à aménager notre territoire avec une logique de transformation énergétique, ben, en fait, on optimise à la fois l'aménagement de notre territoire et notre organisation de société. Et donc, effectivement, on est dans des vraies solutions de réponse au changement climatique.
Donc utiliser le surplus d'énergie électrique produite pour justement aménager des territoires et construire des infrastructures qui nous permettent.
Moi, c'est ce que j'aime à dire, c'est que lorsqu'on parle déjà, puisque on sait que dans le futur, en fait, on va être confronté à des arbitrages. En fait, ces arbitrages, il faudrait qu'on les anticipe même aujourd'hui. Et que c'est aujourd'hui qu'il faudrait qu'on fasse des arbitrages. C'est-à-dire que, mais pour cela, moi, c'est quelque chose que je n'arrête pas de répéter. À mon niveau, c'est difficile d'avoir de grands échos, mais pour moi, ça nécessiterait aujourd'hui d'avoir un consensus entre les politiques, donc c'est-à-dire les décideurs aussi sur les territoires, les industriels, les syndicalistes, parce qu'il va y avoir forcément des impacts sociaux, et donc les syndicalistes devraient se mettre aussi autour de la table, les financiers. Parce que aujourd'hui, si on doit mener ce genre de politique, ça veut dire que ça nécessite quand même énormément d'argent. Et aujourd'hui, l'argent, elle n'est pas forcément orientée vers ce genre de... Et après, les gens qui ont une conscience, je veux dire, environnementale raisonnée, et qui sont en mesure, effectivement, de dire ben, on tranche sur l'avenir de notre société. C'est ça qu'on aimerait avoir. Et on se donne une vraie trajectoire. Et à partir de là, on définit l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir est décidé de manière unilatérale à Paris. On adapte des réseaux. En fait, on avait parlé à une époque de Grenelle de l'environnement, mais en fait, on n'y est pas du tout. Et aujourd'hui, on voit de vraies incohérences. C'est pour ça que moi, je suis assez... pessimiste sur la transition. Après, l'adaptation des gens au changement, à toutes ces problématiques-là, ça sera la low-tech, tout ça. Je pense qu'on sera capable, l'être humain a déjà démontré qu'il est capable de s'adapter à beaucoup de choses et il s'adaptera.
Adaptation et résilience comme mot de conclusion de notre émission. Merci Marc, c'était passionnant.
Ben, merci.
Merci beaucoup Jeanne pour la régie. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, avec d'autres aventures passionnantes et locales. Je vous souhaite une très belle soirée et on rend l'antenne. À bientôt.